La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie, quoi.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Il faut célébrer les vastes talents qui, sans renoncer à l'aujourd'hui, aux grammaires contemporaines, aimantent dans les formes qu'ils inventent les grands signes antérieurs des récits immémoriaux. Ce sont les artistes qui croient en la capacité d'élucidation de la poésie et qu'ils soient plus jeunes que le Christ, comme Jean-Marie Apriou, que nous rencontrons aujourd'hui, ou plus anciens que Titien ou Soulages, ils tendent vers nos yeux étonnés des visions inédites. Allons donc à Dijon, au Consortium, ce musée d'art contemporain réalisé par les architectes Siguier Ouban et Jean de Gatine, dirigé par le très regretté Xavier Dourou et aujourd'hui Franck Gautreau, voir les expositions et en particulier celle de Jean-Marie Apriou. Quand on rentre dans les expositions, on voit le champ du monde. Le champ du monde devant lequel nous nous concentrons n'est pas aujourd'hui celui du grand artiste lycier, Lursa, dont pourtant quelques grandes tapisseries inaugurent les salles, mais le champ du monde de notre invité dans son exposition intitulée « Seabed, le lit de la mer ». Là, des hauts reliefs en bronze associent le ciel dans la partie haute et en dessous la mer vue d'un seul coup d'œil, ce que jamais nous ne pouvons voir à moins peut-être de mettre un masque. Au-dessus, le cosmos, les étoiles, les dinosaures, au-dessous, les poulpes, les algues, les cuisses de la nageuse déformées par la lentille de l'eau, et en face, dans une salle, des personnages cosmonautes d'aluminium qui, protégés par le casque de verre, s'avancent d'un pas égyptien, de ce fameux pas qu'immortalisèrent Giacometti ou Gasiorowski. Un Jonas, là, s'extrait du ventre du requin de Maldoror. Un peu plus loin, au centre d'une salle, Ophélie se dissout dans les vaguelettes qui deviennent son corps. Un théâtre de sculpture se forme, et un théâtre de forme et de sens, tout simplement une vision. Pour en parler, je vous propose de rencontrer avec moi leur auteur, Jean-Marie Apriou. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Jean-Marie, vous êtes un encore très jeune artiste, mais vous êtes un artiste qui commence à s'imposer. Vous exposez aux États-Unis, en France, en Autriche, vous arrivez à l'instant de Russie, mais c'était pour découvrir le pays. Vous êtes un artiste qui avait des visions. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est qu'être un artiste visionnaire aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est un mot qui vous convient d'ailleurs?
Oula, vaste, grande question. Un artiste visionnaire, je ne sais pas vraiment le définir, mais en tout cas, le mot vision me plaît, dans un sens à la fois pour l'inspiration ou pour le psychédélisme, enfin tout ce que le mot vision un peu peut porter.
Être dans la vision, ça veut dire aussi attirer des formes qui se retrouvent absurdément ensemble parce qu'elles révèlent une vérité que l'évidence ne nous révèle pas.
Oui. Alors,
Ça veut dire d'abord avoir des formes. C'est d'abord être dans. Vous êtes un sculpteur réaliste, par exemple. Vous
répondez. Oui, mon travail est très figuratif. On peut le définir comme ça. Et ça part du pain de terre. Et je modèle cette terre, cette glaise. Et les formes viennent. Alors, soit d'une manière un peu surréaliste, des fois, comme ça, dans la terre, les choses s'assemblent. Mais ça part souvent d'un dessin aussi. Donc, il y a vraiment toute une, presque une technicité un peu traditionnelle, qu'on pourrait dire, qui porte des visions, je l'espère, d'un autre monde.
Ouais. En fait, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'antériorité dans votre travail. C'est-à-dire que c'est un travail absolument contemporain dans sa forme, etc., qui, même s'il se sert de techniques immémoriales ou anciennes, mais il y a comme la rémanence de mondes très anciens dont vous ne vous seriez pas séparés, alors que j'avais l'impression que l'art contemporain était un monde qui se séparait.
Oui, moi je vois les choses un peu, c'est vrai que différemment. Parfois on me dit alors ces références sont anciennes, mais je me dis toujours que l'espace de temps qu'il y a entre les grottes Chauvet et Lascaux est plus étendu qu'entre Lascaux et nous. Il y a 12 000 ans entre nous et Lascaux, et entre Lascaux et les grottes Chauvet il y a encore 15 000 ans. Donc je crois que le temps c'est quelque chose que j'espère que les artistes ne prennent pas comme quelque chose qui une course contre la montre, mais quelque chose qui peut revenir sur des choses qui n'ont pas tout à fait été réglées ou qui ont encore des choses, il y a plein de choses à dire.
Vous avez vécu en Bretagne, vous avez commencé à travailler en Bretagne, dans le Finistère dans le nord, Finistère, enfin juste ouais. Au nord de la Bervrac en fait. Hein,
la pointe nord, nord-ouest.
Ouais. Nord-ouest, ouais. Hein, juste entre la Manche et la Bervrac en
exactement,
fait, en
ouais.
Gros, paysage sublime. Vous voyez au milieu des goémoniers, hein, je crois que c'est des régions, le goémon.
Je viens d'une famille de goémoniers, oui.
En plus, oui.
Ouais.
Et donc, habités et habitués aux formes de la nature, dans leur informité, d'une certaine façon.
Oui, c'est un endroit dans le Nord Finistère où le granit est roi, et la rencontre de la Manche et de l'Atlantique ont formé pendant des millénaires et du vent, ont formé des sortes de qu'on pourrait dire sculptures abstraites, comme ça, et même pas abstraites, on y voit des visages, on y voit des animaux, on y voit tout un drame dans ces rochers.
Et quand vous êtes avec cet univers, ça vous inspire des formes, des techniques, des désirs? Je me souviens de sculptures que vous aviez fait il y a quelques années et qui donnaient la sensation d'être des grands personnages filiformes faits à partir d'algues. Mais c'est
oui,
des personnages qui étaient...
C'était une exposition que j'avais fait en 2013 à Gennevilliers. Et c'était je ramassais des laminaires, ces grandes algues de lesquelles on extrait la gélatine. Je les ramassais sur la plage, comme ça elles avaient été un peu arrachées par les tempêtes, et je les moulais dans la terre. Je cuisais la terre et l'algue brûlait, puis je coulais du bronze dans ces moules. Donc il y avait quelque chose de très une technique de bronze, mais à algue perdue, mais très qui est quelque chose de
la technique à algue perdue, c'est une innovation, non?
Je crois que ça a été fait pour des plantes et par le passé, oui.
Dites-moi, quand je reviens sur cette question de l'artiste visionnaire, ça m'intéresse parce que vous m'avez dit, me semble-t-il, que vous aimiez beaucoup Blake, ce
William
grand
Blake,
poète,
oui.
Artiste, illustrateur, médium en quelque sorte, anglais. Vous retrouvez dans des artistes comme ça dont l'œuvre n'est pas définie par le temps dans lequel elle se construit.
Oui, ça c'est quelque chose que j'aime particulièrement. C'est comme les pré-Raphaël. Enfin, on veut ranger certains artistes dans un mouvement pré-raphaélite ou symboliste. Mais ce que j'aime chez Redon ou chez Moreau et surtout chez Blake, c'est que il n'y a pas spécialement de frontières. C'est pas spécialement défini comme appartenant à une avant-garde, à un mouvement. C'est un artiste libre à un moment, dans une époque, qui s'exprime et qui encore est repris par des artistes des siècles après comme étant de l'inspiration.
En même temps, si je vous lis deux, trois phrases de Blake qui sont là, je pense, parce que c'est quand même un personnage très exceptionnel. Hein, donc, je me souviens qu'une de ses peintures est l'évocation de la vision du fantôme d'une puce, par exemple. C'est assez extraordinaire. C'est un artiste qui a des visions, qui est hanté, qui voit des fantômes, etc. Et je me souviens, par exemple, qu'il écrit ceci. « Je sais que nos amis décédés sont davantage avec nous que de leur vivant. Il y a 13 ans, j'ai perdu un frère avec l'esprit duquel je m'entretiens quotidiennement de longues heures et que je peux voir en imagination. J'entends ses conseils et j'écris sous sa dictée. » Ça, c'est quelque chose d'assez normal, je pense, dans l'affectivité. Et il dit un peu plus loin, « Je suis plus renommé aux cieux pour mes œuvres que je ne peux l'imaginer. Dans ma cervelle, il y a des études et des chambres pleines de livres et d'images de l'ancien que j'ai décrit et peint dans les âges éternels avant ma vie mortelle. Ces œuvres font les délices des archanges. » Alors, comment est-ce qu'on fait pour que ses œuvres, vos œuvres de jeune artiste, fassent le délice des archanges?
Je crois que c'est avec le temps et que les choses... Comment expliquer que... Une idée, on ne sait pas trop des fois d'où elle vient. On a l'impression d'être en connexion, et ça peut être avec l'Égypte ancienne, et puis avec quelque chose comme avec une marche qui est reprise par Giacometti. Et puis on se dit il y a encore un truc là qu'il faut creuser, et on essaye d'aller de l'avant tout en n'étant pas une répétition, en essayant de discuter encore avec une idée qui est pas définie.
Ça m'a frappé que l'exposition que je viens de voir à Dijon, donc au consortium, que je vous recommande tous, chers auditeurs, d'aller voir, m'a frappé parce que elle est extrêmement concentrée sur ces sujets. C'est presque toujours la mer, le monde sous-marin, le monde archaïque, les dinosaures disparus à 63 millions d'années, l'homme appareil à 3 millions d'années. Donc là encore, la question du temps est extrêmement importante. C'est le grand archaïque, si je puis dire, et le contemporain, avec des formes qui subissent des déformations qui sont en fait très contemporaines, même si on y fait des associations avec une iconographie des années 30. On a parlé ensemble déjà de Lehmbruck, ce grand artiste allemand que Joseph Beuys adorait. Et parfois, les œuvres sont inversées. Tout d'un coup, le ciel et la terre se renversent. Comment est-ce que s'est construit l'exposition ? Il y a 5 ou 6 sujets, finalement, dans cette exposition.
Oui, alors l'exposition Seabed, c'est une fiction, c'est une histoire que je raconte, que je raconte sur les murs. Donc, c'est, en général, mon travail de sculpture est plutôt dans l'espace. Et là, je voulais me mettre sur les murs pour raconter comme presque une question picturale, des histoires dans un bas-relief dans lequel on se plonge pour avoir une narration. Donc je fais appel à des mythes comme ça, qui sont à la fois préhistoriques, historiques et aussi on va dire futuristes, en tout cas dans le sens de la science-fiction. Et ces histoires, j'ai pris l'eau comme étant le fil conducteur un peu de l'exposition, comme si la marée, le niveau de l'eau était un fil. J'étais parti de l'idée un peu de l'origine de la vie qui se fait dans une soupe primitive, comme le disent les scientifiques. Et donc c'était l'origine de la vie, à la fois en même temps la montée des eaux futures, le drame qui peut nous arriver sur Terre. Donc à la fois ça partait dans le passé, ça partait dans le futur. Et l'humain au milieu de ça, au milieu des dinosaures, des cachalots et sur un il y a une pièce où le personnage, un personnage est nu comme ça sur un iceberg, accompagné de manchots, et il dérive comme ça sur l'océan.
Avec un soleil comme ça qui apparaît sur l'horizon.
Oui, il y a des événements des événements célestes qui apparaissent. Les cachalots montent, sondent vers le fond de l'océan, mais aussi montent vers la surface et voient un événement comme une comète ou comme une éclipse ou des aurores boréales. Il y a cette connexion entre l'eau et le cosmos.
Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est que moi j'adore cette façon de narrer, en fait, le très ancien et le très contemporain, la menace du futur et l'origine du monde. Il y a un aspect cosmogonique, bien entendu, mais aussi l'œuvre entière est une cosmographie. C'est-à-dire qu'elle possède la totalité, comme ça, des informations, si je puis dire.
C'est pour ça que je me suis tourné très vite vers le métal. C'est-à-dire que finalement, les sculptures, elles partent, comme je disais tout à l'heure, d'un pain de terre. Donc on part de l'argile, et puis on passe du cru au cuit. On cuit l'argile, on le moule, il part dans le sable en fonderie, il se retrouve en métal. Il y a tout cette permutation des matériaux et des métaux qui nous font penser un peu à l'alchimie et toutes ces choses qui m'intéressent.
Écoutons peut-être quelques lignes de Mircea Eliade où il parle de cette question cosmogonique et qui vous ressemble, me semble-t-il.
La cosmogonie est le modèle exemplaire de toute espèce de fer. Non seulement parce que le cosmos est l'archétype idéal à la fois de toute situation créatrice et de toute création, mais aussi parce que le cosmos est une œuvre divine. Il est donc sanctifié dans sa structure même. Faire bien quelque chose, œuvrer, construire, instruire, créer, structurer, donner forme, informer. Tout ceci revient à dire qu'on amène quelque chose à l'existence, qu'on lui donne vie, et en dernière instance, qu'on le fait ressembler à l'organisme harmonieux par excellence, le cosmos.
Vous êtes sur France Culture et je suis avec Jean-Marie Apriou dans l'émission L'art et la matière et nous sommes en train de parler de son exposition au musée d'art contemporain Le Consortium à Dijon et cette exposition intitulée Seabed est justement, comme on vient de l'entendre avec Mircea Eliade, une cosmogonie, mais elle est une cosmogonie non seulement dans ce qu'elle représente, mais dans la façon et l'histoire du fer, puisque cette fonderie comme ça qui est à l'origine de ces formes, on est dans tout le processus au fond de création du monde.
Oui, il y a beaucoup de similitudes dans les matériaux, parce que ces matériaux sont pour moi des matériaux forts, qui ont une histoire, qui ont été depuis des millénaires travaillés par l'humain. Donc évidemment, l'argile est chargée, le métal, le bronze, l'aluminium est chargé d'un. Quand on s'engage à faire une sculpture avec ces matériaux-là, on a ce poids-là, mais qui est un moteur plus qu'un frein.
Et cette façon de travailler avec l'histoire de la forme au fond, hein, donc c'est quelque chose qui impose le sujet. Est-ce que quand on travaille avec comme un alchimiste, avec le feu, avec la fusion, etc., on va presque naturellement dans les processus de création du monde.
Les sujets sont portés par les matériaux et en même temps les matériaux sont mis en valeur par les sujets aussi. C'est quand je fais du nu ou de l'animalité, enfin le sujet animal ou le sujet végétal dans mon travail, évidemment ça essaye d'appuyer en tout cas le tout le travail de la main qu'il y a derrière.
Alors quels sont ces, au milieu des salles, donc il y a des sortes de cosmonautes qui avancent comme des sculptures égyptiennes ou comme des Giacometti, vous le rappeliez tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils symbolisent dans votre narration?
Alors le personnage de je dis le personnage parce qu'en fait dans mon travail il y a quelques personnages comme ça qui apparaissent et l'enfant astronaute il était déjà apparu en 2016, j'en avais fait une série et puis je l'avais laissé un peu comme ça de côté. Il y avait l'apiculteur qui était apparu, une sorte de grand apiculteur avec un grand chapeau comme ça qui reprenait la forme du chapeau de l'alchimiste dans Holy Mountain de Jodorowsky. Et donc il y a plusieurs personnages comme ça qui apparaissent et disparaissent mais qui tissent une narration dans l'ensemble d'une expo à l'autre.
Une narration dans l'œuvre, globalement.
Globalement, oui.
Mais les cosmonautes, ils ont une présence significative dans l'exposition. On a l'impression qu'ils deviennent les témoins, comme Saint Jean, Saint Jean l'Évangéliste, est le témoin de la crucifixion dans les tableaux anciens, d'une certaine
façon. Oui, j'ai voulu les faire. Je me suis dit qu'au consortium, c'était le bon endroit, le bon moment pour les faire réapparaître. Ils ont un peu grandi. Ils sont dans une position comme ça de marcheur. Et à la fois, ils peuvent être cosmonautes et en même temps aussi scaphandriers. Il y a cette ambiguïté. Ils sont recouverts de coquillages ou d'animaux marins. Donc, ils sont comme ça, comme des passeurs, comme l'Anubis de l'Égypte ancienne. Ils ont cette ambiguïté un peu de passeurs entre les salles.
Et qu'est-ce que symbolise l'apiculteur, alors, qui n'est pas là, qui est dans d'autres expositions?
Alors, l'apiculteur, c'était quelque chose aussi de... C'est-à-dire qu'à la fois, l'enfant cosmonaute donnait une sorte du futur de l'enfant qui va vers les autres galaxies. L'apiculteur, lui, était plus quelque chose de plus terrien. Il était plus en lien avec, il portait un bouquet de fleurs comme ça. Il porte un bouquet de fleurs et c'est un peu comme il est plus déceptif. Il amène comme le dernier bouquet de fleurs aux abeilles, aux dernières abeilles peut-être.
Mais ça veut dire qu'il y a un aspect très eschatologique, dystopique comme ça dans votre travail?
Oui. Et il y a aussi une prise de conscience écologique aussi. Il y a quelque chose qui... Ça porte plusieurs choses.
Dans ce que ça porte, il y a évidemment cet aspect qui est le contemporain et l'inquiétude du futur. Mais je dirais que c'est en même temps, c'est un travail qui a une sensualité, qui n'est pas fait que de cette inquiétude. Il y a aussi une découverte du mystérieux. Très souvent, vous avez des personnages qui mettent la main sous la mer, qui mettent la main sous la terre, qui mettent... Comme si l'œuvre vous permettait d'aller à l'intérieur des choses.
Oui, c'est-à-dire que je me sers, par exemple, là, de l'eau comme presque une métaphore, à la fois optique, formelle, mais aussi presque spirituelle. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui nous transforme. Nous sortons de l'eau, on repart à l'eau, on essaye de. C'est comme il y a quelque chose de magnétique dans l'eau. Et je me sers de cette eau comme un symbole de quelque chose, oui, ou un filtre.
L'eau, elle est aussi symbolisée par cette Ophélie qui est là et qui devient elle-même eau. Alors ça, c'est une sculpture en bronze, n'est-ce pas?
En aluminium.
En aluminium.
Patiné, oui.
Et patiné.
Très sombre.
Redécrivez-nous.
Oui, alors pareil, c'est à la base, c'est une terre que j'ai moulée, puis je l'ai coulée de manière assez brute comme ça en aluminium. et je l'ai pas brossé. On a cette image de l'aluminium très brillant, et là elle est vraiment, il y a quelque chose de terreux, que il y a tout la fumée avec le sable a créé une réaction. Cette Ophélia, elle est très sombre comme ça, donc on se demande si elle sort de terre ou si elle est entraînée par l'eau.
Mais oui, parce que il y a une partie de son corps devient des vaguelettes en quelque sorte, hein, donc elle est comme dissoute dans l'eau, un petit peu comme Arethuse veut se transformer.
Il y a cette idée du marais aussi, voilà. C'est-à-dire que il y a le marais, le marécage, que je trouve intéressant aussi.
La soupe primordiale dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, et aussi, mais c'est pas que là, pour le coup, pour Ophélia, la vie ne sort pas de la soupe primitive, c'est plutôt que le corps retourne au marais, au marécage et à la terre.
Et alors, il y a des moments où vous inversez complètement les bas-reliefs que vous avez faits. Le ciel et la terre se renversent. Qu'est-ce qu'on peut lire là ?
Alors ça, je vois la sculpture, c'est un bas-relief où il y a, dans un sens, c'était comme deux anges, deux êtres qui tombaient du ciel et qui plongeaient leurs mains pour aller à la rencontre des poulpes. Et en l'inversant et en changeant des choses, c'était les poulpes devenaient des aliens et les personnages à grandes mains, comme ça, sortaient de l'océan. Donc il y avait quelque chose aussi du renversement et quelque chose du pôle, de l'Antarctique, Arctique, et renverser la polarité.
Quand on a parlé de ce projet de faire une émission ensemble sur cette exposition, vous me dites, tiens, peut-être qu'on pourrait évoquer le chant 2 de Dante. Et alors je me suis demandé pourquoi, en relisant le chant 2 de Dante, je me suis souvenu que effectivement c'est le chant où il est avant l'enfer. Donc on n'est pas encore dans l'aventure terrifiante comme ça de l'enfer, dans laquelle Virgile va bien vouloir l'accompagner, mais on est dans le moment où il commence une aventure liée à son désir et où il a peur, il est inquiet. Vous en êtes là ?
C'était aussi une manière de... C'est avant le grand saut. Et quand vous m'avez proposé de participer à cette exposition, enfin à cette émission, je me suis dit, bon, bah, c'est avant de se plonger, avant une discussion. Et donc, il suit Virgile dans son délire.
Mais vous, par exemple, si je vous lis un passage, c'est comme un homme incertain qui s'avance et recule, voulait et ne veut plus, et cédant aux scrupules, rejette son projet ardemment embrassé. Quand vous faites des projets extrêmement ambitieux, comme cette exposition, où il y a quand même près d'une trentaine d'œuvres nouvelles, lorsque vous faites un projet comme celui qui est en ce moment et que nos auditeurs aux États-Unis peuvent aller voir à Central Park, où il y a trois grands chevaux installés en face du général Sherman.
C'est ça.
C'est des projets extraordinairement ambitieux qui sont, imaginez, les chevaux dont nous parlons, ils font 3-4 mètres de haut. Est-ce que vous êtes dans une situation dantesque, si je puis dire ? Vous dites, est-ce que j'ai raison de prendre ce chemin, parce que ça engage tout l'atelier, ça engage vos collaborateurs. Pour un jeune artiste, c'est très compliqué, très risqué. Est-ce que cette crainte se déroule comme ça ?
J'envisage pas la chose différemment. Je pense que toute personne qui s'engage dans une création artistique ou une création telle qu'elle soit veut le faire avec force et veut en tout cas le partager. Ces chevaux, effectivement, sont très grands à New York, mais une fois installés sur la place, rien n'est trop grand pour New York, donc finalement ils étaient parfaitement à la bonne taille. Ils sont pas trop grands, il les fallait de cette taille-là.
C'est compliqué l'échelle dans une ville pareille, hein, d'avoir l'échelle juste.
Oui, c'était ma première expérience dans l'espace public. J'avais déjà fait des sculptures qui étaient en extérieur, mais jamais dans l'espace vraiment comme ça.
Vous pouvez décrire les trois chevaux parce qu'ils sont très particuliers quand même.
Oui, c'est vrai que c'est difficile à décrire, mais il y a ces trois sculptures. Alors il y en a un grand que j'ai appelé le cheval guerrier qui s'arque comme un chat effrayé, qui fait une sorte de porte, et il faut passer par cette porte pour rentrer dans Central Park. Et il a une tête comme ça tout en armure, et puis il a des côtes qui sont des, quand on passe de l'autre côté, on voit ses côtes comme s'il était un peu écorché, qui sont des ronces, et puis des dedans des petites têtes de chevaux qui sont comme des gargouilles. Il y a un autre qui est une autre facette du cheval qui est plus comme un sphinx. C'est un cheval couché. Je voulais un cheval qui est comme après la course, un cheval fatigué et en même temps qui garde, comme le sphinx, il garde un temple. Et il y a une troisième pièce qui est plus, il n'y a pas de tête, c'est juste un ensemble de ventres de chevaux et de pattes, comme un presque comme un kiosque, et donc il est presque comme une canopée, il abrite le spectateur. Donc je voulais un peu séparer le sujet du cheval en trois sujets, le guerrier, le joueur et le cheval amoureux, et c'est un peu pour essayer de trouver de parler avec le passant d'un peu notre manière dont on peut envisager le cheval, et pas le cheval que glorieux qui sert de socle à un général ou qui sert de...
Qui se trouve à quelques mètres de là, puisqu'à côté il y a la grande sculpture dorée du général Sherman, grand général américain du 19e siècle, qui est le cheval triomphal, le général à sa cape gonflée par le vent,
Liberté avec la palme dans la main. Et puis il y a plusieurs chevaux comme ça qui sont autour de Central Park, des grandes sculptures en bronze qui sont sur des chevaux sur les deux pattes arrière en train de se cabrer. Il y avait ce cheval-là dans la sculpture et qui est dans l'histoire de la sculpture, quelque chose qui revient souvent. Le cheval est un sujet important, mais en même temps il est le socle, il est soclé, mais il est le socle aussi de l'homme et du général et du guerrier. Là je voulais remettre le sujet autour du cheval, c'est-à-dire que j'enlève le général, j'enlève l'homme, je mettais les sentiments humains et je mettais ce que le cheval peut nous apprendre sur nous-mêmes au centre du sujet.
Quand on travaille sur un projet américain comme ça, c'est un art public en plein cœur de New York, évidemment, c'est très compliqué. Mais vous avez choisi le cheval parce que c'est l'Amérique, l'idée du cheval, c'est l'Amérique, mais c'est des chevaux qui sont plutôt des chevaux d'apocalypse quand même, non ?
Voilà, c'est ça l'ambiguïté du cheval. Je trouvais que quand on m'a proposé ce projet en centre-ville à New York, il y a aussi toute une prise de conscience. On peut pas faire n'importe quoi. On peut pas choquer tout un public. On est dans une grande ville. Il y a des milliers, voire des millions dans l'année de gens qui vont passer. Et donc, il faut trouver un sujet qui corresponde à la fois qui n'est pas, on va pas s'empêcher de parler de certaines choses, et en même temps on peut pas non plus. Donc le cheval permettait de faire à la fois de parler du nu, de parler du muscle, de parler de plein de choses, on va dire classiques de l'art, et en même temps c'était comme presque un cheval de Troie aussi pour parler d'autres choses, plus autour de la politique ou de l'humain un peu plus obscur.
Comment ça a été accueilli ?
Le jour où j'y étais, c'était bien accueilli. Maintenant, j'espère que les New Yorkais
J'ai vu énormément d'images sur Twitter, etc., du monde entier. Ça frappe, ça enthousiasme, les gens se l'approprient, montent sur le cheval qui est couché.
C'était le but aussi, que les gens puissent monter sur les chevaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette distance comme au musée, il n'y a pas cette distance comme dans les galeries. Il fallait que, quitte à ce que ça soit au cœur de la ville, que les gens vraiment puissent vraiment vivre avec.
Alors, puisque votre sujet c'est la nature, ça m'intéresse que nous écoutions un petit texte de Léonard de Vinci qui parle de sa relation à la nature. Justement, écoutons-le.
Le peintre s'adonne avec une libre puissance à la création d'espèces diverses, animaux de toutes sortes, plantes, fruits, paysages, campagnes, écroulements de montagnes, lieux de crainte et d'épouvante qui terrifient le spectateur, ou encore des lieux charmants, suave et plaisant, des champs fleuris multicolores balayés en ondes suaves par des brises suaves, regardant fuir les vents, des rivières qui descendent avec la fougue de grands déluges du haut des montagnes en entraînant des arbres déracinés pêle-mêle avec des rochers, des racines, de la terre, de l'écume, et bousculant tout ce qui s'oppose à leur écoulement. Et la mer, pleine de tempêtes, rivalise et lutte avec les vents contraires. Elle s'élève en ondes superbes et s'effondre en écrasant le vent, qui frappe la base des vagues, l'enferme, l'emprisonne pour le battre et le brise dans une mêlée d'écume trouble. Elle apaise ainsi sa fureur. Parfois, vaincue par les vents, la mer sort de la mer et envahit les hauts rivages des promontoires voisins. Franchissant la cime des monts, elle descend dans les vallées opposées.
Jean-Marie Apriou, nous sommes avec vous et nous continuons notre émission, l'art et la matière. Après avoir écouté Léonard de Vinci, et ce Léonard montre que, au fond, l'artiste avec la nature peut tout faire. Il est, à l'instar du créateur, celui qui peut exprimer par fiction, par correspondance, par technique, les différences de la nature. Et dans votre travail, la nature est ce que vous avez choisi. Au fond, c'est le thème constant de votre travail.
Oui, c'est quelque chose je le prends comme aussi une excuse pour faire de la sculpture. C'est-à-dire que c'est un sujet que je prends pas de manière, pas du tout détaché, mais comme je me dis, c'est dans cette feuille ou dans cette fleur, je peux exprimer quelque chose de plus profond qui parle pas de la fleur, mais qui parle d'autre chose, mais par le reflet, par la forme de la fleur.
Dans l'exposition de Dijon, par exemple, de façon assez étrange, tout d'un coup, il y a au milieu de l'exposition un champ de maïs.
Oui.
Alors qu'est-ce qu'il vient faire là?
Alors, c'était une pièce que j'ai voulu mettre dans cette exposition à Dijon, mais qui avait été faite un an auparavant dans une exposition que j'avais faite à Zurich, et qui était plus autour de la moisson, du moment de la moisson. L'exposition était en novembre, et je voulais justement, les saisons sont quelque chose d'important dans mon travail, et je voulais au moment des, vu que l'exposition était en novembre, faire le maïs, c'est la plante qui est moissonnée en dernier dans l'année, et c'était aussi une métaphore, c'est-à-dire que les champs de maïs, quand je courais enfant avec mes frères dans les champs de maïs, je trouvais qu'il y avait cette possibilité de se perdre d'une parallèle à l'autre. Là, il n'y avait plus que la résonance de la voix des autres et qui n'était notre rapport pour se situer. Et je trouvais que le champ de maïs avait cette possibilité-là d'être une métaphore des mondes parallèles. Je m'intéresse beaucoup à la physique quantique, tout ça, et puis au monde, aux univers multiples. Et donc il y avait un peu cette métaphore à la fois très agricole, très comme ça du maïs, et en même temps qui parle d'une mythologie aussi très chère aux Mayas, et en même temps à la physique quantique et au monde parallèle.
Mais c'est, en fait, vous essayez de sédimenter à l'intérieur d'une forme ou d'un objet ou d'un signe un ensemble de significations, mais qui sont extraordinairement diverses, finalement. C'est oui. Comme si l'objet devenait une synthèse syncrétique.
C'est comme s'il était un témoin pour un objet de projection, hein, pour l'esprit s'ouvre.
Comment est-ce que vous imaginez quel le rôle d'un jeune artiste, s'il a un rôle d'un jeune artiste aujourd'hui dans notre société? Est-ce que vous pensez que, par exemple, c'est... quelqu'un qui invente seulement de nouvelles formes, qui apporte de nouveaux sens, est-ce que l'idée de nouveau a une importance pour vous?
Elle a une importance à un moment quand on fait ses études, quand on parle avec d'autres artistes, et à un moment elle devient presque une obsession, puis à un moment je me suis libéré de ça, je me suis dit si je me concentre que sur cette charge comme ça de qu'est-ce qu'être une avant-garde, qu'est-ce qu'être nouveau, je pense que ça c'est presque une pression qui empêche d'être vrai, d'être sincère. Donc à un moment, le jour où j'ai libéré ça de mon esprit, j'ai commencé, je crois, à faire des œuvres plus intéressantes.
Mais en étant plus intéressantes, elles sont d'une certaine façon plus nouvelles. Elles amènent quelque chose, une signification, une complexité supplémentaire, non?
Je l'espère. Et surtout, c'est que je me suis senti plus libre. J'allais beaucoup plus loin. L'esprit était ouvert, n'était pas bridé par avec une pression d'histoire de l'art ou avec une contemporanéité. Enfin, quelque chose qui était beaucoup plus large.
Vous avez l'impression que le système de l'art a tendance à bloquer les artistes dans la grammaire du présent?
J'ai l'impression un petit peu, ou en tout cas il y a une sorte de pression de vouloir être, beaucoup d'artistes de ma génération sont omnubilés par Internet, ou être comme ça, quelque chose qui est très, des formes qui sont très, très contemporaines, et je crois pas que c'est le contemporain est dans la forme de l'anecdote de l'époque, mais elle est plus large. Elle peut l'être, mais elle est plus large, j'espère.
Donc qu'est-ce qu'un artiste qui... a décidé de s'échapper des nécessités de son genre, d'une certaine façon, en tout cas de sa discipline. Où est-ce qu'il va puiser les ressources de son imagination? Donc là, il y a la littérature, vous avez parlé de William Blake tout à l'heure.
Ça peut aussi dans la bande dessinée. J'adore par exemple Alan Moore, qui n'est pas un dessinateur, mais qui est un écrivain, pour la bande dessinée. Et quand il a fait des choses comme les Watchmen ou comme V pour Vendetta, il a eu des prix qui sont des prix de littérature. C'est quelqu'un qui travaille avec différents dessinateurs, mais qui va très très loin comme Moebius par exemple en dessinateur, a été pour moi quelqu'un de très important. Il a travaillé avec Jodorowsky sur un projet de Dune, du film qui n'a pas vu le jour, mais qui après sur l'Incal. Et c'est en étant justement Moebius en connexion avec des gens comme Jodorowsky ou Alan Moore avec d'autres dessinateurs, où ils ont été très loin et ont pu toucher un public très large qui n'est pas aussi serré que celui de l'art contemporain des fois.
J'essaie de penser à la relation entre la culture savante d'un artiste du 19e siècle, Brunon Ingres ou David, etc., sans doute en train de lire Ossian, qu'il pensait être un écrivain très ancien, de regarder les Grecs, et un artiste d'aujourd'hui qui a une hiérarchie tellement différente. Vous regardez la bande dessinée, qui est un art absolument passionnant et renouvelé, mais et la musique aussi, peut-être.
Oui, la musique est très importante. À la fois, elle accompagne le travail, l'atelier. Alors, il y a des moments de silence, mais vu que je travaille aussi avec une équipe d'assistants, on a besoin de musique et on a besoin de chacun peut s'exprimer en mettant les morceaux qu'il a envie de mettre. Donc la musique est toujours présente.
Écoutons un des morceaux que vous avez suggéré. Alors Jean-Marie Apriou, qu'est-ce que vous nous avez fait écouter ?
Alors c'est une chanson qui se titre Seasong, qui est de Robert Wyatt, de l'album Rock Bottom. Je l'ai proposé parce que c'est une chanson que j'écoute très régulièrement, en tout cas depuis longtemps, et qui est là pour illustrer l'exposition Seabed. Je trouvais qu'elle était belle.
Une exposition peut-être un chant ?
Oui. Moi, je le vois vraiment comme une... Vu que j'ai un travail qui s'intéresse, enfin qui est narratif, je le vois presque comme une écriture. Quand je commence une exposition, enfin un travail sur une exposition, je vais souvent quelque part. Là, pour l'exposition Seabed, j'étais parti sur les îles Féroé l'été dernier. Et c'était comme ça qu'un peu, en regardant les choses, j'ai écrit quelques mots. Alors, c'est pas de la poésie, c'est pas des textes, c'est plutôt des quelques mots. Et je vais très peu de croquis. Ça part plutôt de mots.
Alors, ça part de mots, pas tout de suite de croquis, et ensuite, quand vous arrivez dans l'atelier ou dans la fonderie, il faut faire. Donc, comment ça commence ?
La terre est vraiment mon médium. C'est vrai que je dessine dans la terre directement. Enfin, je modèle directement. C'est la terre qui est mon croquis. Et puis, des fois, ça s'arrête. Elle reste au croquis. Puis, des fois, quand je sens que ça m'échappe, je continue et ça devient quelque chose.
C'est pas mal quand ça échappe, en fait.
C'est important que ça échappe. C'est important.
Et moi, j'ai trouvé que l'exposition avait des matières dans lesquelles jamais le corps, votre corps, n'était dissimulé.
Bah, c'est vrai que je laisse beaucoup les doigts, l'empreinte apparente. Pour moi, c'est important de montrer le geste, que le spectateur puisse se projeter lui aussi, que sa main soit invitée à modeler aussi, ou à continuer le modelage.
Alors, on a parlé beaucoup des sculptures, mais il y a aussi des gravures, non ?
Oui, alors là, c'est assez nouveau. Je présente des gravures, mais pour moi, la gravure ou la sculpture, c'était un peu le même geste. C'est-à-dire qu'on était dans le métal, on était presque dans une micro-sculpture, en fait. La pointe, l'acide ronge le cuivre, on est dans une sculpture plus petite.
Vous dites micro-sculpture, mais enfin, c'est des gravures qui font quasiment 2 mètres de haut.
Oui, elles font 2 mètres par 1 mètre. Oui.
Donc c'est des grandes, c'est considérable pour la gravure.
Pour des eaux fortes, c'est des grandes eaux fortes. Mais j'avais besoin aussi pour aller dans le dessin et dans la 2D, on va dire, dans l'image, j'avais besoin d'avoir un équivalent, presque une force, une présence formelle pour la gravure aussi, qui contrebalance avec le poids du bronze. On se dit pas, il y a des bronzes et puis il y a des petites gravures. Je voulais que l'échelle puisse équilibrer tout ça.
L'eau forte, c'est de l'acide.
C'est l'acide
qui va dissoudre
le métal, oui.
Le métal. Oui, oui. Et au fond, c'est des processus de transformation chimique des matières, que ce soit la fonte ou l'eau forte, etc.
Vous aimez la gravure m'intéresse pour ça, oui.
Vous aimez quand les choses se transforment d'elles-mêmes, comme si c'était la construction.
On parlait de... Je disais tout à l'heure, c'est important que ça échappe, mais dans le sens aussi où ce que j'aime, par exemple, dans la céramique, la fonderie ou là la gravure, c'est qu'il y a une chose, on l'a fait, on est en train de la faire, et c'est notre bébé, on va dire. Et puis j'aime aussi tout d'un coup que pour la céramique, on met la pièce au four, on la voit pas pendant une journée de cuisson, il y a une journée de refroidissement, puis quand on la redécouvre, elle a changé d'échelle, elle est plus petite, elle a changé de couleur, elle est passée du cru au cuit, et donc elle nous échappe. Il y a un moment qui est ce que les potiers japonais appelaient l'épreuve du marteau, c'est qu'à un moment on sort le bol à quelque chose près, on le donne à l'empereur, on l'offre à quelque chose près, il passe sous le marteau et il ne sera rien. Et ça c'est l'œil qui doit reconsidérer l'objet. C'est-à-dire qu'on l'a fait, on est très fier de ce qu'on a fait et tout d'un coup ça remet en doute tout ce qu'on a fait avec un temps entre les deux obligatoire. C'est-à-dire que la gravure aussi, on fait une image dans un sens, on l'imprime, alors elle est imprimée dans l'autre sens et on voit tous ces erreurs et c'est les erreurs de, on voit en tout cas que la technique n'est plus maîtresse, elle nous fait trembler un peu.
Vous aimez bien quand vous travaillez avec des fondeurs par exemple qui font des erreurs?
C'est pas que j'aime qu'ils fassent des erreurs, c'est que je fais en sorte qu'ils fassent des erreurs. ou que, en tout cas, la difficulté soit toujours un peu poussée. Alors, je pourrais travailler avec des fondeurs à qui je donne un objet 6 mois à l'avance et qui me sortent quelque chose tout à fait défini. Et c'est, alors, là, je travaille de manière différente. C'est que je travaille avec un fondeur ou un verrier avec qui vraiment c'est une rencontre, c'est une histoire d'amitié. Et par cette confiance, on peut aller beaucoup plus loin avec la matière. On peut vraiment la mettre j'allais pas dire en péril, parce que c'est plutôt elle qui nous met en péril, mais en tout cas, il y a une possibilité qui s'ouvre.
Longtemps, vous avez fondu vous-même de façon très artisanale, très, très expérimentale, je peux dire. Là, vous travaillez en Auvergne?
Oui, alors au début j'avais monté un jeune artiste. Au début, quand il veut faire du bronze, de la céramique, tout ça, il a pas spécialement les moyens. Enfin, il a pas du tout les moyens. Donc, il faut trouver des manières alternatives. Donc, d'aller en Bretagne et de monter ma fonderie, de faire mes fours, c'était une manière. Avec 50 balles, je pouvais faire un bronze, une pièce comme ça. Et après, une fois que j'avais fait une année, 2 années comme ça, j'avais un peu fait le tour pour moi de ces questions-là. Je m'étais réglé des problèmes avec moi-même et du coup je m'étais dit ok, maintenant je peux aller vers l'artisan. Et ça a commencé avec un verrier et puis après avec un fondeur, et je pouvais lui dire voilà ce que la manière dont j'envisageais les choses.
Je me souviens que à Lyon par exemple, vous avez participé à la dernière Biennale de Lyon, vous avez montré des ronces. Qu'est-ce que viennent faire des ronces dans votre vie?
Alors c'était un grand roncier comme ça sur 500 mètres carrés.
C'était immense, hein, c'est parce que
oui, ça se déployait.
Ça se déploie sur près de 3 mètres de haut, sur une quinzaine de mètres de longueur. Ouais. C'est un sacré roncier, oui.
Alors
ça allait si mal?
Comment?
Vous aviez l'impression d'être dans un buisson de ronces dans votre vie ou quoi?
Ça venait aussi d'une expo de Edward Burne-Jones à Londres que j'avais vu un an auparavant. C'est un artiste que j'aime, un peintre que j'aime beaucoup. Il y avait cette légende de la Belle au bois dormant où l'univers se remplit de ronces. Donc il a fait des peintures de ça. J'avais été vraiment frappé par cette salle à la Tate. Et donc je m'étais dit, tiens, en sculpture, j'ai envie de voir des ronces en sculpture. C'était aussi quelque chose autour de la saison, c'est-à-dire que la Biennale ouvrait en septembre, et en septembre on va ramasser les murs, donc il y avait quelque chose aussi, un lien avec le comme novembre tout à l'heure avec les maïs, et aussi je trouvais que c'était une métaphore, comme un dessin dans l'espace, une métaphore de la ruine du passé et de la friche du futur, donc juste un motif d'une ronce qui se déploie dans l'espace pouvait porter toute cette narration qui m'est chère de l'histoire, du futur et du présent qui est un peu coincé entre ces deux choses fortes.
C'est curieux que les pré-raphaélites vous intéressent.
Oui, c'est curieux. Mais ils sont très chers pour moi.
À cause du légendaire ou à cause de...
Du symbolisme et aussi de... Je crois que ça vient du côté symbolique. Ce que j'aime chez Moreau, chez Redon, pour aller chez les Suisses, par exemple, il y a Fuseli.
Vous parliez de Redon tout à l'heure, hein, quand vous parliez de la soupe primordiale, l'intérêt pour ce qui se passe sous la mer, les premiers, hein, c'est Redon.
Oui, Redon, il y a ce grand coloriste, et puis il nous fait rêver avec un pastel bleu. C'est incroyable de faire ça.
Quand vous, oui, le symbolisme vous intéresse particulièrement à cause de.
On représente quelque chose qu'on ne doit pas voir la chose.
Oui, c'est exactement ça. C'est la résonance d'une chose absente.
C'est ça. Et par un objet qui peut être une cuillère. C'est ça qui est incroyable. Donc quand je pars sur la représentation d'un corps ou d'un végétal, c'est pour parler de quelque chose qui est caché derrière ce végétal.
Donc il ne faut pas qu'on regarde le sujet de votre travail littéralement.
Pas de manière naturaliste, en tout cas, non, ça c'est sûr.
Oui. C'est-à-dire que vous, quand vous représentez un corps dans l'eau, vous parlez.
Je ne parle pas d'anatomie ou quand je fais une fleur, je ne sais pas de compter si elle a le bon nombre d'épines pour que ça soit une fleur de tel arbre. C'est une fleur qui est une expression. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, enfin, qui me rapproche des expressionnistes. Et l'expression d'une fleur pour parler de son ombre ou de quelque chose.
C'est curieux, il y a aussi un intérêt très fort de votre part pour les saisons. Je me souviens par exemple d'une œuvre que j'avais beaucoup aimée, que vous aviez montrée qui est à Versailles, qui était une taupe, le cauchemar du jardinier, avec des éclats d'hiver, des éclats de glace
comme ça. Oui, l'exposition était autour de le sujet, était autour du voyage d'hiver. Donc j'avais choisi la taupe comme qui sortait comme un animal de terre et qui se glaçait au contact de l'air et qui se remplissait comme ça d'une robe de cristaux de glace.
C'est encore le thème des saisons. Enfin, c'est très souvent ça revient, me semble-t-il, une attention dans le travail au temps cosmique au fond, tout simplement.
Oui, parce qu'en fait, c'est ce qui nous lie aux les saisons. C'est à la fois c'est ce qui gère un peu notre quotidien, mais en même temps, ce qui est lié aux étoiles, à la lune, aux astres en général. Et je trouve ça incroyable.
Alors, vous nous avez proposé une autre musique, un autre musicien. Je vous propose que nous l'écoutions.
L'horizon prend fin, où l'œil jamais de l'homme n'apaisera sa fin, au seuil enfin de l'univers, sur cet autre revers, trouant le ciel de nuit, d'encre et d'ennui profond, se fond et se défond. Les âmes.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière, et je suis avec Jean-Marie Apriou. Jean-Marie Apriou, on vient d'écouter ceci, Manset, me semble-t-il.
Gérard Manset. C'est un album des années 70 qu'il a fait, qui s'appelle La Mort d'Orion. C'est tout un album concept, comme ça, autour d'une sorte de mythologie qui crée autour de l'humain et des astres. Et de, voilà.
L'Orion, le grand chasseur transformé en constellation.
Et ça, belle ceinture.
Et la belle ceinture des trois étoiles alignées, c'est toujours chaque fois qu'on les voit apparaître. Là, c'est la saison
qui tire vers le ciel. Ouais.
C'est très impressionnant de voir le baudrier d'Orion suivi par ses chiens, je veux dire. Et tout ça parce qu'il a été piqué par un scorpion, me semble-t-il. Et donc.
Gérard Manset, oui,
c'est ce que pourquoi Gérard Manset.
Parce que j'avais pensé à. Ben, je l'ai beaucoup écouté. Pour moi, c'est un poète vraiment en langue française aujourd'hui. Très important, et il passe par la musique, mais c'est vraiment du mot et de la poésie, et ça fait du bien aussi d'entendre de la poésie en français.
Est-ce que vous pensez que la poésie a encore, a encore une capacité d'élucidation du réel?
Je pense que la poésie est même la, à la base de tout ce qui peut se faire en, en création. Elle est vraiment presque la source.
Vous avez l'impression de travailler en poète? Vous écrivez, par exemple?
Non, pas du tout, non. Non, non. J'ai pas cette, ce talent-là.
Vous prenez pas de notes?
Je prends des notes.
Mais je publierai pas un jour les écrits
mais
de,
je pourrais pas dire que c'est de la
Jean-Marie Apriou?
Non, je pense pas. Non, c'est vraiment... D'ailleurs, je dis souvent que je suis sculpteur, parce que j'ai pas, comme beaucoup de, d'amis artistes, j'ai pas plusieurs casquettes. Je me concentre sur la sculpture. Alors, le dessin revient, mais c'est pas vraiment... J'assume le fait de me concentrer sur un sujet, sur un médium.
Un sculpteur très, très narratif, d'une certaine façon, au sens du légendaire, au fond, plutôt.
Oui, oui, oui.
C'est d'ailleurs ça, au fond, qui vous intéresse, c'est les Préraphaélites, c'est de leur façon d'être légendaire.
De parler des grandes légendes, à la fois de Hamlet, chez Millet, par exemple, avec l'Ophélie, d'aller dans le mythe arthurien, c'est des représentations. C'est un peu, je trouve, que ce qu'on trouve dans le cinéma, des fois, aujourd'hui, c'est de pouvoir faire un Faust, mais actuel, c'est ça qui est intéressant.
Qu'est-ce qui va se passer dans votre travail dans les mois qui viennent? Vous avez, je ne parle pas d'exposition, etc., mais vous sentez qu'il y a une transformation en cours de l'œuvre et de la pensée ou au contraire, vous procédez par glissement
Souvent, je vois les expositions comme un collier de perles. Une fois que ce qui m'a déplu dans la dernière exposition, j'essaie de le questionner, de le re-questionner, l'améliorer dans la suivante. Donc il y a un peu comme un glissement, on pourrait dire, entre les différentes expositions.
Je lisais un petit passage de Dante que je trouve extrêmement beau. Alors ça, c'est le début du chant 3. Hein. C'est le moment où il dit « Nous entrons au chemin sauvage et tortueux ». Ça, c'est votre carrière qui va être forcément sauvage et tortueuse. Et il dit « J'entrais dans le chemin profond et sauvage ». Et juste avant, il dit « Comme les tendres fleurs inclinées et fermées par la gelée nocturne, lorsque le soleil blanchit, relève leurs tiges et s'ouvre ». Je trouve que c'est extraordinaire et c'est très très proche de la façon dont votre travail fait attention à des phénomènes naturels dont on tire forcément un sens symbolique.
C'est vrai que il y a cette, on est tous impressionnés par une mer déchaînée, par un ciel.
Mais ça, c'est des romantiques. Ça vous définit ça?
Je ne dirais pas que ça me définit, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut être à la base d'une idée d'exposition, oui.
Et dites-moi, en ce moment, vous êtes donc en train d'assumer cette succession très importante d'expositions. Je crois que vous avez fait une centaine d'œuvres cette année.
Oui, c'est vrai que je travaille. Enfin, j'ai besoin de travailler beaucoup, de faire beaucoup de choses pour que. Alors, je dis pas qu'elles sont peut-être toutes bonnes, mais en tout cas, voilà, j'ai besoin de cette
profusion pour
nourrir,
choisir.
Oui, tous les jours, j'ai besoin de travailler, d'aller à l'atelier, de faire quelque chose avec mes mains, et puis de.
C'est un travail solitaire, l'atelier, ou c'est un travail collectif?
Alors moi je travaille, je fais mes sculptures, je les modèle, mais après j'ai une équipe d'assistants avec qui on est en confiance et avec qui on travaille tous les jours, qui suivent pour le moulage, qui suivent pour le c'est assez complexe pour amener tout ça en fonderie, pour que ça soit amené dans différentes expositions. Il y a tout un travail derrière d'équipe, mais le modelage initial je tiens à le faire, c'est comme un dessin, je peux pas le déléguer vraiment.
Vous aimez ça, le travail d'équipe? C'est joyeux.
C'est joyeux. Ouais. Ouais. Je vois une vie d'artiste comme quelque chose, j'espère, de pas mélancolique et trop pénible comme ça. Je suis content d'aller à l'atelier. Alors c'est toujours semé d'embûches, mais
en dépit de la fin du monde que vous nous montrez.
Alors la fin du monde est aussi plus ou moins joyeuse. Quand on lit l'Apocalypse, on est submergé de joie parce qu'il y a quelque chose. Je vois pas ça comme quelque chose de triste, c'est plutôt une sorte de projection qu'on se fait.
Vous pensez que c'est simplement le cycle normal des choses?
Moi, je le lis d'une manière où c'est une fiction. Donc, on n'est pas dans la vraie fin du monde serait douloureuse. Là, c'est plutôt, je le vois comme quelque chose qui est un moteur, un moteur pour d'inspiration.
En fait, j'ai l'impression que dans votre travail, le principe de la transformation est essentiel, le sujet de la transformation est permanent, et vous mettez en rotation comme ça l'ensemble des éléments, des choses, pour arriver à d'autres formes vers lesquelles vous allez parvenir sans même vraiment le deviner. Je pense à une sculpture que j'ai trouvée extrêmement belle, qui s'appelle Here and Lips, ou Here, Lips
oui,
and Here.
Lips, ouais. C'était une grande sculpture de deux grands visages, comme ça, qui font à peu près 2,50 m de haut, ce qui était sur une grande barque de 4 mètres avec un gouvernail en palme. Et c'était encore des sujets empruntés aussi à l'Égypte ancienne qui m'est cher, et où deux grands visages, une discussion entre deux grands visages qui partent. D'ailleurs, ça fait aussi, c'est ça que j'aime beaucoup dans l'enfer de Dante et de la Divine Comédie, et que j'ai découvert d'ailleurs au tout début par Blake quand il a illustré la Divine Comédie, où on voit comme ça Virgile et Dante passer comme ça ensemble, comme un couple comme ça qui passe de paradis en enfer. Et
Ils se rassurent, ils se racontent des histoires, voilà. Ils ont la bouche et l'oreille sont proches l'une de l'autre.
L'une de l'autre, toujours représentées comme ça. Et puis ils viennent d'époques différentes et ils se retrouvent là pour, avec leurs bagages à travers ces différents univers.
Et ils sont sur donc la barque comme Dante, effectivement, la fameuse barque de Dante de la Croix.
L'Achéron,
traversant l'Achéron. Ouais. Il y a un autre élément, c'est quoi ? C'est une rame, c'est quoi ?
Là, c'est une palme, c'est un gouvernail.
C'est un gouvernail.
Qui est très beau, comme ça, dans les représentations égyptiennes de la barque, du passage d'Anubis pour le passage des morts. Et il y a toujours ce gouvernail qui peut changer de bord et nous faire tourner vers d'autres.
Qu'est-ce que c'est qu'une réussite pour vous ? Quand vous réussissez une sculpture, par exemple, est-ce que vous avez en tête une sculpture dans laquelle, elle est apparue, vous avez dit là, j'ai réussi quelque chose, celle-là m'a permis d'atteindre un niveau et d'aller au-delà.
Alors, il y a des moments de grâce comme ça où on se rend compte qu'une pièce est réussite, mais c'est souvent qu'on se rend compte qu'il y a des pièces qui ne sont pas réussites, justement, parce que des fois, il y a un dessin de base, et puis il y a une réalisation de la pièce, on a l'impression que le modelage est juste une mise en forme d'un dessin, d'une idée, que l'idée était presque convenue, et là on se dit non, ça va pas. Et les pièces qui marchent, souvent on le sait après. On le sait par le spectateur aussi, on le sait par... et des fois, elle est étrange, c'est comme les meilleurs films, c'est quand on sort du cinéma, on se dit qu'est-ce qu'on a vu, est-ce que c'était nul ou c'était grandiose. Et c'est quand il y a ce doute, souvent, quand une pièce nous chatouille, comme ça, qu'elle devient souvent intéressante.
C'est quelque chose, chez beaucoup d'artistes, je pense par exemple aux Zip de Barnett Newman, il a fallu 2 ans pour qu'il s'y habitue, pareil pour Malevich quand il a fait le premier carré noir, il a fallu 2 ans pour qu'il en fasse un tableau. Beaucoup d'artistes ont cette période d'intermédiaire où ils ne savent pas comment juger leur propre œuvre. C'est quelque chose que vous ressentez ?
Je crois que tout le monde le ressent, tout artiste a un moment ce sentiment-là, et heureusement parce que c'est ça qui est incroyable.
Vous détruisez beaucoup ?
Je détruis pas beaucoup sur le moment, mais l'année qui suit, je j'ai plus envie de voir les pièces de l'année d'avant. C'est moteur pour la suite.
Vous êtes dans l'élan.
Exactement.
Merci infiniment, Jean-Marie Apriou, et bravo pour cette exposition du consortium. Elle dure jusqu'à quand d'ailleurs ?
Jusqu'au 1er mars.
Merci beaucoup.
Merci.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Jean-Marie Apriou à propos de son exposition au Musée d'art contemporain de Dijon, le fameux consortium que nous aimons beaucoup, et où il vient de montrer Cybède, le lit de la mer. une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata, lecture des textes, la belle voix d'Emmanuel Lemire, prise de son Bastien Vérigo, réalisation évidemment Somani Na. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. La semaine prochaine, nous visiterons l'exposition Hopper à la Fondation Beyler à Bâle. Et évidemment, à 15h30, vous retrouverez Victor Massé de l'Épinay et son rayon BD. Et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.